France Inter, le 7-9.
Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est l'économiste en chef de l'OCDE.
Oui, bonjour Laurence Boone.
Bonjour Léa Salamé.
Et merci d'être avec nous ce matin pour poursuivre ce que dit Dominique Seux. À l'OCDE, vous avez donc établi deux scénarios. L'un où l'épidémie reste sous contrôle et l'autre où il y aurait une deuxième vague. Quels sont les deux scénarios? On prévient déjà, ils sont pas bons les deux, hein.
Non, effectivement, on a fait ça parce que l'incertitude à laquelle on fait face est extraordinaire. On ne sait pas très bien si le virus va revenir, on ne sait pas très bien si tester, tracer, isoler les gens va subir. Donc c'est plutôt que de dire, voilà, on a un scénario, c'est le plus probable, on s'est dit on va en faire deux, on va encadrer le champ des possibles. Et c'est vrai que dans les deux, le choc est vraiment dramatique. On n'a jamais vu une baisse de l'activité économique aussi forte que celle qu'on a vue, par exemple, au deuxième trimestre en ce moment. Le monde plongerait de 10%, ce qui est extraordinaire. Et c'est tout le monde, tous les pays de l'OCDE ont une croissance négative.
Oui, vous dites de toutes les manières, à la fin de 2021, la récession sera supérieure à ce qu'on a connu depuis plus de 100 ans, sauf période de guerre, avec des conséquences, je vous cite, terribles et durables pour les populations, les entreprises et les gouvernements. Conséquences terribles et durables, c'est comme pour poursuivre ce que dit Dominique Seux, est-ce que vous n'êtes pas trop catastrophiste? Est-ce que vous mesurez ce que vous dites? Parce que c'est extrêmement angoissant, en fait.
En fait, oui, c'est vrai, c'est angoissant, je reconnais, mais on fait ça puisque, comme vous savez, notre mission, notre objectif, c'est de formuler des recommandations de politique économique pour justement éviter que les choses soient pires. Notre but, c'est pour ça aussi qu'on a fait des scénarios, c'est on essaye de se mettre dans l'environnement très incertain d'un gouvernement et d'en tirer, et en regardant ce que chaque pays de l'OCDE fait, d'en tirer les meilleures politiques économiques possibles. Donc on fait ça pour dire voilà quelles sont les options pour aider à avancer mieux, à remettre les gens au travail, à récupérer du revenu, à faire que les gens aillent mieux.
Oui, on va parler des politiques économiques, mais d'abord, Bruno Le Maire a dit il y aura des centaines de milliers de pertes d'emplois, il a parlé de 800 000 emplois. Ce sont les moins qualifiés et les jeunes qui vont souffrir le plus, Laurence Boone.
Oui, je pense que la première chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que tous ces gouvernements ont mis en place des formes de chômage partiel ou comme on dit maintenant, d'activité partielle. Et c'est super important parce que ça non seulement maintient un lien à l'emploi pour les activités qui vont pouvoir repartir vite, donc ces personnes-là, elles vont revivre le plus normalement possible, et aussi parce que ça donne un revenu pendant toute cette période. Maintenant, c'est vrai, vous savez que les secteurs qui sont les plus touchés sont ceux où la distanciation physique est la plus difficile, en fait, et c'est le tourisme, c'est l'événementiel, c'est les sports de public, etc. Et c'est dans ces secteurs-là qu'on retrouve à la fois la plus grande proportion de jeunes, de personnes moins qualifiées, et de formes de contrats non standards et plus précaires.
Donc c'est eux qui vont souffrir le plus. Ouais. L'idée de baisser son salaire ou d'augmenter son temps de travail dans les entreprises pour éviter des licenciements, c'est une bonne idée ou c'est du chantage?
En fait, je pense que, vous savez, pour le chômage partiel, par exemple, on s'est inspiré de l'Allemagne qui, effectivement, a mis ça en place pendant la crise financière. Et il y a un dialogue social en Allemagne qui est, c'est vrai, qui marche très bien, qui est très profond et qui est très adapté à chaque entreprise. Et c'est vrai qu'en période de crise, ils ont beaucoup tendance à dire, OK, on n'accepte pas de hausse de salaire, hein, et on travaille plus pour préserver l'emploi. Et c'est vrai qu'en France, on a moins tendance à faire ça. Et moi, je pense que ce qu'il faut en retenir plutôt que ça, c'est est-ce qu'on a le bon niveau de dialogue social, est-ce qu'on a les bonnes relations sociales qui permettent en fait une cohésion plus forte au niveau de l'entreprise pour le bénéfice de tout le monde.
Mais quelles sont les politiques économiques que vous préconisez pour essayer de supporter le choc?
Ouais, alors il y a trois choses. La première, c'est la santé. Il faut continuer vraiment d'investir dedans. Enfin, vous en avez parlé pendant toute cette période. Plus de personnel, des meilleures conditions, plus de lits, etc. Je pense que plus de tests, il faut vraiment faire ça. La deuxième chose pour les emplois, nous ce qu'on dit c'est qu'il y a deux niveaux de protection. Il faut d'abord un revenu pour les plus vulnérables dont on venait de parler, faut surtout pas les laisser tomber. Et puis il faut qu'on soit beaucoup plus pragmatique et aidant dans la recherche d'un emploi pour les personnes qui sont dans un secteur qui va rester à fonctionner à 15, 20 ou 30% de son activité. Et il faut pas figer les personnes dans ce type d'emploi, il faut les aider à aller ailleurs. Et quand on dit pragmatique, ben par exemple, si vous travaillez 15 heures par semaine au lieu de travailler 35 et que vous avez trouvé, je ne sais pas moi, des piches parce que vous êtes journaliste dans un autre secteur, mais qu'on vous laisse faire, qu'on vous laisse le revenu qui aille avec aussi, qu'on encourage plutôt les personnes à se trouver comme ça.
Donc cumuler les jobs.
Pourquoi pas ? Mais pas pour tout le monde. Et en tous les cas, le filet de sécurité, c'est pas le moment de le laisser tomber.
Et c'est quoi le troisième ?
Et la troisième chose, c'est on voulait parler des entreprises aussi. On est dans un pays où c'est très difficile quand on est dans une entreprise qui va pas bien de se restructurer et aussi de recommencer une aventure. Il faut enlever ce stigma. Quand on nous voit mettre la clé sous la porte aujourd'hui parce qu'on n'a pas tenu la période du Covid, il faut qu'on puisse redémarrer demain et pas dans 3 ans.
Et comment ?
En fait, aujourd'hui, c'est difficile de relancer une entreprise si vous avez été à la tête d'une entreprise qui a fait faillite. On va vous demander d'attendre, on va vous demander de cocher plein de cases. Et là, il faut qu'on laisse faire, parce que c'est important de recréer ça pour recréer des emplois.
En même temps, Laurence Boone, on entend des chefs d'entreprise et certains économistes dire en privé, en off, ils ne l'assument pas, mais on l'entend, dire que la reprise va se faire beaucoup plus vite que prévu, que non, ça ne va pas être si catastrophique que ça, que ça va être une reprise en V, au fond, on est au fond du trou, et là, vite, on va remonter dans 3-4 mois, voire même qu'il y a des opportunités à se faire, voire même qu'il y a des profits à se faire, avec tout l'argent que dépense l'État sur les entreprises, que donnent toutes les liquidités aujourd'hui qui arrivent dans les entreprises pour le chômage partiel et pour qu'elles tiennent le coup. Est-ce que c'est faux, ça ?
Alors, il y a plein de questions dans votre question. Je vais essayer de répondre très vite à chacune. La première chose, est-ce qu'il va y avoir une reprise en V ? Pour certains secteurs, oui. Là, je prends le secteur de la construction. Il s'est arrêté totalement. La distanciation physique est plus facile. Il réouvre totalement. Donc forcément, on revient où on était avant. Ça, c'est une reprise en V. Je prends le secteur de l'e-commerce. Il a explosé. Et ce qu'on voit, par exemple, avec la Chine, c'est que ce type d'habitude, on ne les perd pas. Donc, eux, oui, ils gagnent, entre guillemets.
Le numérique va embaucher, par exemple.
Exactement.
Ça va être un secteur où ils vont embaucher dans les prochains mois.
Le numérique, tout ce qui est livraison, le soin aux personnes, hein, puisqu'on a quand même eu un peu de soucis dans les EHPAD. Donc oui, il y en a qui vont repartir en V, mais il y en a qui ne vont pas repartir. C'est ça le problème. Donc on va avoir une reprise très rapide, mais à la moitié du chemin, j'ai envie de dire, aux trois quarts du chemin, et après, on stagne. Et là, deux autres choses très très rapides. Est-ce qu'il y a eu des effets d'aubaine pendant cette période ? Sûrement. Est-ce que c'était une raison pour pas le faire ? Non, parce qu'il fallait protéger les personnes. Donc après, on peut voir ça, mais sur le coup, je pense que c'était mieux d'avoir quelque chose qu'englobe tout le monde que de se dire « Oh, je vais le cibler tellement bien que je vais louper la moitié des gens. Mmh. » Et la troisième chose, et vous avez eu raison de me rappeler que j'avais pas dit, c'est que je pense qu'il faut un service d'accompagnement pour le retour à l'emploi, plus à la danoise que chez nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelqu'un qui va vraiment vous prendre en charge, vous, et pas essayer d'apporter une réponse toute faite à votre recherche d'emploi. Ça, c'est super important.
Est-ce que les inégalités vont se creuser encore plus dans les prochains mois ?
C'est effectivement une de nos grandes craintes, que les inégalités se creusent plus, parce que les plus vulnérables dont on parlait tout à l'heure, les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail ou qui vont avoir du mal en apprentissage, les moins qualifiés, tout dans tous les secteurs dont on parlait, c'est aussi ceux qui normalement ont une carrière la plus difficile, la plus heurtée, on a une période où on travaille, une période où on se retrouve au chômage, qui ont moins accès à la formation professionnelle, parce qu'ils ont des périodes de chômage, ils vont avoir une retraite moins élevée, donc c'est vrai que cet effet en cascade dont on a déjà parlé ensemble, va les toucher. Oui, c'est une grande crainte pour nous que les inégalités se creusent et dès les personnes jeunes donc, qui se traînent ça pendant longtemps.
Donc il faut vraiment prendre des mesures. Vous attendez d'Emmanuel Macron qui va prendre la parole dimanche, des mesures en direction des jeunes et des moins qualifiés. Ce sont eux qu'il faut protéger.
Je pense que c'est la population. Oui, je pense que c'est une population qu'il faut protéger absolument, à qui il faut donner de l'espoir et qu'il faut remettre dans le jeu pour qu'ils puissent regarder l'avenir de façon plus sereine, parce que c'est aussi à eux qu'on leur reste nos dettes.
Merci Laurence Boone. Merci d'avoir été avec nous. Belle journée à vous.